Nous abordons aujourd'hui le sujet de la paracha Korar. La paracha Korar contient une bizarrerie, une spécificité grammaticale. C'est la seule paracha de toute la Torah qui n'a aucun he mapik. Je m'explique. Il y a dans la Torah un signe particulier qui se trouve à l'intérieur d'un he. Le he, c'est une lettre. Et dans ce he final d'un mot, il y a parfois un point. Ce point n'est pas un dagesh, c'est un mapik. Et la conséquence, c'est qu'il va très certainement nous apporter une lumière tout à fait intéressante sur cette paracha et plus généralement sur les relations humaines. En fait, rappelons d'abord le point de grammaire. Lorsqu'on lit la Torah imprimée, on remarque parfois des mots dont le he final contient un point. Ce point remplit une fonction tout à fait différente que la fonction grammaticale du dagesh, qui est un point dans une lettre aussi, mais pas dans les lettres gutturales. Or, le he est une lettre gutturale. Voyez-vous, on ne trouve pas de dagesh dans les lettres gutturales en principe, sauf il y a des cas, mais je ne m'étendrai pas dessus. Il y a deux alephes qui ont un dagesh, un point, mais c'est un autre sujet que l'on pourra aborder à une autre occasion. Le mapik, grammaticalement, c'est la marque du possessif féminin. Je m'explique. Quand on dit sa jument, eh bien, ou son cheval, eh bien, c'est sous ça. Vous voyez, sous ça, sous ses chevals, sous ça. Sous ça, c'est à une fille qu'appartient cet animal. Quand on dit à elle, on dit là. Et on a à la fin le mot, on entend à, le hé, qui est un souffle, avec le point à l'intérieur qui le prolonge un peu. Quand on dit sa terre, c'est artsa, mais quand on dit sa terre à elle, c'est artsa. Vous voyez ce point, ce he final, qui apporte un point, une précision de grammaire fondamentale, qui veut dire qu'il est, c'est un mot féminin, comme on dirait tout simplement quand on étudie un texte littéraire français ou d'autres langues. Donc, ce mapik he vient nous apporter grammaticalement une indication, ce qui est à une femme, la possession d'une chose. Eh bien, dans toute cette paracha, je l'ai vérifié sur l'ordinateur, j'ai pris tout le texte de cette paracha et le texte des autres d'ailleurs, et j'ai vérifié si on y trouvait, vous savez, la fonction Word de rechercher le hé avec point dans toute la Torah. J'en ai trouvé partout, sauf dans cette paracha Korar. Alors bon, on relève jusqu'ici, je ne vais pas être trop long là-dessus, on l'a compris, c'est une particularité. Maintenant, qu'est-ce que va nous apprendre cette particularité? Parce que toutes les particularités de la Torah ont un sens fort, profond. Ici, on ne peut pas être indifférent. Tout a du sens. Et là, en particulier, je vais vous transmettre une remarque, un enseignement qui m'a été transmis par mon maître, M. Yitzhak Mazer, qui venait du Canada et qui s'est établi à Montpellier, et qui a lui-même cité un rabbin de, je pense, d'Ottawa, en tout cas du Canada, Rabbi Misha Berger, qui avait avancé une hypothèse sur la constatation que nous venons de faire. Nous venons de faire une constatation grammaticale, l'absence de mapik est dans tout le texte de cette paracha Korah. Eh bien, pourquoi? Bon, on pourrait dire, ah, c'est bizarre, hein, pourquoi donc? Pourquoi donc? Ben, le rabbin Berger a avancé une hypothèse. Il nous explique. La Torah commence par Vayikach Korach, et il a pris Korach. Eh bien, qu'a-t-il pris? Eh bien, on aurait une réponse en relation avec le point grammatical que l'on vient de soulever. Il a pris un mauvais chidour. C'est-à-dire, il avait rencontré une femme, il avait épousé une femme qui ne lui convenait pas. Vaïkar. Et il a pris, ça veut dire qu'il s'est marié en fait avec quelqu'un qui ne lui convenait pas. Et tout le sérieux, enfin, une grande partie de la paracha d'aujourd'hui nous parle de la révolte de Korach. Eh bien, cette révolte-là exprimerait en définitive le mauvais usage de cette question grammaticale du possessif féminin, d'où l'absence de m'appliquer dans toute la paracha. Eh bien, la relation de couple, le rôle, autrement dit, le rôle des femmes et leur rôle considérable pour influencer leur mari, on voit ceci à deux reprises. Dans la paracha, on voit la femme d'un des protagonistes de cette histoire qu'on va détailler tout à l'heure, qui s'appelle On, donc la femme de On, qui a agi d'une certaine manière, et par ailleurs, on a la femme de Korar qui agit d'une toute autre manière. De quoi s'agit-il dans cette paracha en définitive? C'est une révolte. C'est une révolte parce que il y a contestation de l'avantage qui arrive à la famille de Moshe. Moshe a été nommé le chef du peuple. Aaron, son frère, a été nommé le grand prêtre. Bien. Jusque-là, tout était normal. Ils étaient le fils d'un aîné et donc il leur arrivait, selon la loi hébraïque, deux parts. Mais voilà que quand il a fallu nommer une troisième notabilité, eh bien, ce n'est pas Korach qui a été nommé. Or, lui prétendait être le troisième. Il était le troisième sur la liste, mais il n'a pas eu le poste en question. En fait, et donc il a accusé Moshe, alors qu'en fait ce n'était pas du tout du favoritisme par rapport aux parents de Moshe, c'était l'ordre de Dieu d'agir ainsi. Mais Korah n'a pas voulu entendre que c'était l'ordre de Dieu, et il a contesté Moshe en abrégeant et en simplifiant, tu fais du favoritisme, tu nommes les gens qui sont proches de toi, alors que c'était mon tour, en quelque sorte, d'être nommé. Et à cette révolte de Korach, parce que tout seul, il ne fait pas une révolte très massive, hein, donc il a adjoint un certain nombre de gens autour de lui, parce que nous étions dans un contexte qui était celui des premiers-nés. On sait que les premiers-nés auraient dû avoir une fonction spirituelle importante, mais depuis la faute du veau d'or, ils ont perdu ce rôle qui a été dévolu, donc c'est les Léviïm qui ont eu ce rôle. Les Kohanim avaient déjà leur rôle, mais le reste de la tribu de Lévi ont eu ce rôle. Les premiers-nés ont été en quelque sorte dépossédés de cet ordre, de ces fonctions, parce ils avaient en définitive démérité. Et autour de Korah se sont adjoints donc les premiers-nés, ou certains premiers-nés, et en particulier, on se retrouve avec une révolte considérable contre l'autorité de Moshe, qui en fait venait de Hachem. Alors voyons, puisque l'on aborde ce sujet du rôle des épouses dans les couples, voyons un autre cas, un cas qui était dans la paracha que l'on a vue la semaine dernière, Shelach Lecha. On avait un autre exemple qui était la bonne influence d'une épouse sur son mari. On parle de l'épouse de Caleb ben Yefouné, un prince de la tribu de Yehuda, qui a fait partie des 12 princes des tribus envoyés pour une exploration de la terre de Canaan 2 ans après la sortie d'Égypte. Bon, on se souvient de ce sujet. Et à leur retour, les explorateurs ont dit du mal de la terre d'Israël, de la terre de Canaan. Et en fait, deux seuls explorateurs ont dit du bien, Yehoshua d'une part et Caleb d'autre part. Or, à propos de Caleb, on lit. À propos de Caleb, la Torah explique, et mon serviteur Caleb, puisqu'il y avait un autre souffle en lui et qu'il était pleinement derrière moi, je le ferai venir vers la terre, etc., etc. Bref, donc en définitive, Hachem loue Caleb parce qu'il avait très bien agi en ne disant pas du mal de la terre d'Israël. Et on a ce petit mot également, Ruach Acheret Imo. On le loue en disant qu'il avait un autre souffle en lui, c'est-à-dire qu'il était influencé par son épouse. Son épouse qui n'était autre que Myriam, la sœur de Moshe. Donc Caleb était empli de l'esprit d'une autre, celui de Myriam, et de ce fait, grâce à son épouse, Caleb a agi convenablement. Il a, par exemple, été prié à Hebron, il a apprécié, il a aimé la terre d'Israël et il a fait un rapport favorable. Bien. Donc là, nous voyons déjà un rôle très positif d'une épouse, puisque Caleb a eu grâce à ça, bon, c'était un prince de la tribu de Juda, il a été gratifié en ce sens. Autre exemple, bon exemple aussi, mais là, tiré de cette paracha, c'est celui de la femme d'un personnage qui s'appelle On. En fait, On, c'était le petit-fils de Réhouven, donc l'arrière-petit-fils du patriarche Yaakov. Et On, c'était un des meneurs de la révolte avec Korach, du moins au début de la révolte. Mais subitement, quand on avance dans les versets, il n'est plus nommé parmi les émeutiers. Et il disparaît en définitive, on ne voit plus son nom parmi les révoltés. Et comment comprendre cela? Eh bien, on le comprend parce que le Midrash nous explique que la femme de On, apprenant dans quel mauvais pas s'était mis son époux, pensait aller contester Moshe, eh bien, elle a tenu le langage suivant. Qu'as-tu donc à gagner de cette épreuve de force? Pourquoi affronter Moshe? Imagine, si Moshe est vainqueur de cette épreuve de force, tu seras ridicule. Et de toute manière, même si Korach a gagné, donc le parti que tu as choisi de soutenir gagne, que va-t-il se passer pour toi? Tu ne seras jamais Cohen, puisque tu n'es pas de Cohen, tu dépends de la tribu de Réhouven. Donc, à quoi cela peut-il t'aider? Tu n'auras que changé de maître. Ainsi, On ayant réfléchi, bien sûr, ça ne suffit pas d'avoir des bons conseils, hein, il faut encore les suivre, il faut encore réfléchir sur la pertinence du bon conseil reçu de l'épouse. Eh bien, il ajoute, il reconnaît qu'il a eu raison, mais il lui dit, dis-moi, je suis embarrassé quand même, j'ai donné ma parole, j'ai donné ma parole. Comment est-ce que je peux maintenant ne plus aller avec eux? Ils m'attendent. Alors, et en plus, ils vont venir me chercher s'ils ne me trouvent pas. Alors, cette épouse a eu une idée. Elle lui dit, écoute, c'est très simple, c'est très simple. Voilà du vin, bois du vin, et bois encore du vin, et va te coucher dans la tente, et va dormir. Comme cela, tu ne seras pas en mesure de les suivre, puisque tu es en train de dormir. Mais bien sûr, les autres sont arrivés. On dit, alors, On, qu'est-ce qu'il fait? On est en train d'aller voir Moshe, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas encore venu. Eh bien, la femme de On s'était mise devant sa tente. Elle avait défait sa chevelure et elle était en train de se peigner. Évidemment, Korach et les gens qui étaient avec lui n'étaient pas des gens mauvais, à tout point de vue. Ils avaient la pudeur, ils avaient la tsniout, comme on dit. Quand ils ont vu cette femme, la femme de leur ami, devant la tente, en train de faire une coiffure, donc quelque chose qui n'est pas à partager avec tout le monde, eh bien, ils se sont détournés, bien entendu, et ont été faire leur petite émeute tout seuls. Ce faisant, La femme de Hon a sauvé la vie de son mari, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Quand les émeutiers ont été devant Moshe, Moshe a demandé à Dieu, etc. Et il se trouve que le sol s'est ouvert sous les pieds des émeutiers qui ont été engloutis. Et donc, elle lui a sauvé la vie. On voit là combien est tout à fait fondamental, d'une part, la sagesse d'une épouse qui sait conseiller comme il faut, et deuxièmement, la sagesse du mari qui sait suivre le bon conseil. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bons conseils. Vous pouvez être tenté de dire, oh non, non, voyons, bon, écoute, hein, je sais ce que je fais. Pas du tout. Il faut prendre la peine de réfléchir. Est-ce que c'est pertinent ou non? Ça peut ne pas être pertinent. Mais si ça l'est, il faut évidemment suivre cette sagesse. Et nous avons un deuxième conseil qui est bien plus particulier, c'est celui de la femme de Korah. Alors, avec la femme de Korah, nous avons toute cette problématique du Mappikhé qui va se poser. Elle était avide de grandeur. Elle voulait posséder en quelque sorte la grandeur, le kavod, etc., etc. Et donc, elle souhaitait beaucoup d'honneur pour son mari parce qu'évidemment, ça allait se reporter sur elle. Elle était donc insatisfaite de la position plutôt basse de son mari, puisqu'il aurait dû accéder au grand niveau du peuple, comme ses cousins. Et ce n'était pas le cas, c'est quelqu'un d'autre qui avait été choisi. Et donc, elle a été insatisfaite, mais elle a causé le malheur de sa famille, parce que elle a influencé son mari en lui communiquant son insatisfaction. Cela, en définitive, est tout à fait conforme à l'enseignement de Shlomo HaMelech, du roi Salomon, qui dit ceci: la folie des femmes détruit leur maison, et l'inverse, évidemment, la sagesse des femmes, etc. Mais là, en l'occurrence, cette épouse de Korah, insatisfaite en voulant des honneurs, des honneurs, des honneurs et encore des honneurs pour son mari et donc pour elle évidemment, eh bien, elle a poussé son mari à la révolte. Alors que peut-être n'aurait-il rien fait, il aurait digéré son mécontentement de ne pas avoir été nommé, mais là, on l'a tellement poussé à bout qu'il a senti combien il fallait qu'il réagisse et qu'il se batte. De plus, il y a une pratique qui fait que quand les Lévites accèdent à leur fonction, il est dit qu'on doit les purifier en les rasant entièrement, puisque la Torah nous dit, et ils feront passer le rasoir sur toute leur chair. C'est dans Bamidbar, donc on trouve ça. Eh bien, lorsque la femme de Korah a vu arriver Korah tout rasé, avec pas un seul poil sur la barbe, pas un seul poil sur la tête, eh bien, elle lui a dit, mais qui t'a fait ça? Et il a répondu, eh bien, c'est Moshe, ça fait partie de la loi, quoi. On est lévite, on doit faire ça avant de prendre notre service. Et elle s'est moquée en disant, pas du tout, c'est pas la loi. Il te hait, il veut te rendre ridicule et disgracieux. Ce qui était absolument faux comme interprétation. Mais Korah a répondu d'ailleurs, mais attends, tu dis un peu n'importe quoi là, parce que Korah, si c'était pour me ridiculiser, Moshe aussi s'est ridiculisé, ses enfants aussi ont été ridiculisés, tous les Lévites ont été ridiculisés, alors c'est pas le cas, il n'a pas ridiculisé, il a appliqué une halakha. Mais son épouse a balayé cela d'un geste de la main, en disant, mais pas du tout, qu'est-ce que cela peut lui importer d'enlaidir ses propres enfants, si, par la même occasion, il peut t'enlaidir, toi. Ouais, on voit comme quoi, même quand lui-même disait, mais non, il n'y a pas de problème, dans la matière, il n'y a pas de problème, c'est toute une application de la loi, etc. Eh bien, même comme ça, peu à peu, il est miné, jour après jour, jusqu'à ce qu'il finisse par exploser et dire, oui, il faut que je me révolte, c'est pas possible ce qui m'arrive. Eh bien, un autre jour, d'ailleurs, on voit que ce n'est pas quelqu'un qui reste tranquille dans son coin. Elle pousse son mari constamment et elle essaie de déstabiliser Moshe. Puisqu'un jour, Moshe a donné une leçon sur les tzitzit, sur ces franges que l'on porte au coin du vêtement et au coin du talit en particulier. Eh bien, à l'époque, il y avait dans les tzitzit un fil bleu. Il y a beaucoup de fils couleur laine, mais il y avait un fil couleur azur, une couleur qui venait d'un coquillage d'ailleurs. Eh bien, elle a dit, écoute, puisqu'il faut de l'azur dans les tzitzit, elle lui a confectionné un talit entièrement fait de fil d'azur pour qu'il provoque Moshe, évidemment. Et il a été lui demander à Moshe, quelle est la loi dans ce cas, puisque mon talit, il est totalement azur, est-ce qu'il faut mettre un fil azur quand même? Eh bien, de la même manière, il lui a posé une question à propos de la mezouza. Faut-il placer une mezouza à sa porte si la demeure contient déjà des sifrei Torah? La réponse fut oui, quand même. Donc, ainsi, Korach, monté par une influence néfaste en définitive, eh bien, il a cherché à mettre Moshe en difficulté à plusieurs reprises. Le problème, c'est il n'était pas mu par le désir sincère de connaître comment servir Hachem, mais ces questions de détail visaient à tourner en ridicule la présentation des lois de Hachem par Moshe. Ainsi, nous avons donc un enseignement de Moussard que l'on peut définir, voyez-vous, de ce point de grammaire, nous pouvons tirer des anecdotes, comment dire, des agadotes, du récit de ce qui s'est passé, mais en plus, une leçon de Moussard, de morale en quelque sorte. Bien entendu, l'épouse doit chercher à inspirer un bon comportement à son époux, comme le dit le roi Salomon dans le verset que l'on a déjà cité du livre des Proverbes. Par la sagesse des femmes et bâtit la maison, et au contraire, la folie des femmes la détruit. On a aussi l'enseignement qui est qu'un mari doit prendre la vie de son épouse. C'est pas seulement une épouse fait ce que je te dis, pas du tout. On doit prendre son avis. Benzoma, qui est un des Tanaïm, nous dit: quel est le vrai sage? La réponse est: c'est celui qui ne dédaigne les leçons de personne. Comme il est dit, des leçons de tous mes maîtres, j'ai tiré profit. Et Rabbi Moshe Haïm Lousateau, le Ramchal, explique: il n'existe pas de sage qui ne se trompe pas et qui n'ait pas besoin d'apprendre de ses prochains et même de ses élèves. Ce qui est vrai pour le prochain l'est encore plus pour une épouse, qui est pas seulement un prochain, mais qui est un côté de soi-même. Et donc on voit ici tous ces enseignements qui sortent de ce sujet, où on voit que l'homme doit toujours être attentif à honorer sa femme, car la bénédiction ne provient, nous disent nos maîtres, que de la femme. Le Midrash Ilkut Shimoni en particulier nous explique: la bénédiction d'un foyer ne vient que par l'épouse. Et c'est ainsi que ce verset, ce sujet de la paracha Korach, dérivé simplement d'une remarque grammaticale, eh bien, nous fait déboucher sur une leçon de Moussard utile, je crois. Voilà pour ce sujet.